Bonsoir à toutes et à tous. À ce micro, Mouhamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 28 avril 2023. Il est 17h30 temps universel. Voici le sommaire. Au Soudan, les combats se poursuivent malgré une prolongation de la trêve conclue entre l'armée et les paramilitaires. Le commandant de la force régionale est-africaine déployée dans l'est de la RDC a démissionné, invoquant une menace à sa sécurité et des campagnes de dénigrement contre sa mission. L'ancien vice-président américain Mike Pence a été auditionné par un grand jury sur l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Dans une dizaine de minutes, la Minute Éco, le FMI valide un programme d'aide de 191 milliards de dollars à destination de la Centrafrique et les sports avec le point sur la Ligue africaine de basketball. Pour commencer, le journal. Au Soudan, de violents combats se sont poursuivis ce vendredi à Khartoum et dans la région du Darfour où 74 personnes ont été tuées en 2 jours. La situation s'aggrave malgré une prolongation de la trêve entre l'armée et les paramilitaires. Jean-Roger Bion.
À El Geneina, chef-lieu du Darfour Ouest, la situation est toujours très tendue. Plusieurs immeubles des camps de déplacés ont été gravement endommagés et l'électricité est coupée depuis lundi. Les marchés ont été pillés, il n'y a donc plus de nourriture. Le syndicat des médecins et l'ordre des avocats du Darfour tirent la sonnette d'alarme pour cette région située à la frontière avec le Tchad. C'est dans ce contexte que l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Mohamed Abdan Daglo, dit Emeti, ont approuvé une prolongation de 72 heures de la trêve de 3 jours qui n'a quasiment jamais été respectée par les deux camps. Les belligérants continuent de s'accuser mutuellement de violer la trêve. Sur le front diplomatique, les deux généraux ont chacun déclaré avoir eu des échanges avec des dirigeants des États-Unis, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de l'Éthiopie ou du Soudan du Sud. Les combats ont aussi provoqué un exode massif vers tous les pays voisins. L'Union africaine appelle à faciliter le transit de ces civils.
En rapport avec cette situation au Soudan, l'ONU a fait part de son inquiétude face à l'évasion de prisonniers, dont celle d'Ahmed Haroun, un personnage important du régime d'Omar el-Béchir, recherché par la Cour pénale internationale. « Nous sommes très, très profondément alarmés par les évasions de prison », a déclaré une porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, Ravina Shamadazani, à Genève. Le Haut Commissariat de l'ONU a également prévenu que le conflit ravivait les affrontements ethnique dans la région occidentale du Darfour. Au Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad, une ex-rébellion Touareg, réclame à nouveau la libération de 10 de ses hommes interpellés par l'armée lors d'une opération dans le nord-est du pays, démentant qu'ils soient des terroristes. L'ancien groupe rebelle dit être toujours sans nouvelles de ses hommes interpellés le 23 avril et dément tout lien de ses combattants avec les terroristes et exige leur libération sans condition avec leurs armes et prévient d'éventuelles conséquences de cette affaire en l'absence d'un dénouement heureux. Au Kenya, le pasteur Ezekiel Odero a comparu ce vendredi devant la justice. Il est soupçonné d'être lié à la découverte de plus d'une centaine de corps des membres d'une secte dans la forêt de Chakaola, dans le sud-est du pays. Alexandrine Ollonion.
Le parquet demande le maintien en détention pour 30 jours supplémentaires du très influent pasteur Ezekiel Odero. Le célèbre télévangéliste, chef du centre de prière et église de la Nouvelle Vie, arrêté jeudi, fait l'objet d'enquêtes dans le cadre d'accusations de meurtre, d'aide au suicide, d'enlèvement, de fraude et de blanchiment d'argent. La police a établi que plusieurs assassinats ont bien eu lieu dans l'enceinte de son église. Selon le parquet, il existe des informations crédibles reliant les 109 corps exhumés dans la forêt de Chakaola avec plusieurs adeptes de l'église du pasteur Odero. La plupart des victimes du massacre de Chakaola seraient des membres d'une autre secte, appelée Église internationale de Bonne Nouvelle, dirigée par le pasteur Paul Mackenzie Ntengue. Ce dernier, actuellement en détention, doit comparaître devant un tribunal le 2 mai prochain. Au moins 22 personnes ont été arrêtées dans l'enquête sur ce massacre qui continue de susciter l'horreur au Kenya.
Le commandant de la force régionale est-africaine déployée dans l'est de la RDC a démissionné. Dans une lettre au secrétaire général de la communauté des États d'Afrique de l'Est, le général kényan Jeff Nyaga dit renoncer à sa mission en raison d'une menace pour sa sécurité. Il y a eu une tentative d'intimidation dans mon ancienne résidence en déployant des sous-traitants militaires étrangers qui ont placé des dispositifs de surveillance, fait voler des drones et mené une surveillance physique de ma résidence début janvier 2023, affirme-t-il. Le général Nyaga dénonce aussi une campagne médiatique bien orchestrée et financée contre lui et de fausses accusations sur la complaisance de la force est-africaine face aux rebelles du M23. Toujours en RDC, l'inspection générale des finances a révélé une fraude massive au sein du service de la paix publique où des employés fictifs coûtent près de 800 millions de dollars par an à l'État. L'inspection indique par exemple que plus de 145 000 agents payés disposent des numéros matricules incorrects, fantaisistes et fabriqués pour les besoins de la paix. L'inspection a promis de transmettre aux instances judiciaires la liste des 961 agents de l'État impliqués dans ce réseau mafieux.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, Mike Pence, l'ancien vice-président de Donald Trump, a témoigné hier devant la justice dans le cadre de l'enquête sur l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Eric Manirakiza nous en dit plus.
Monsieur Pence a été sommé de répondre à toute question d'un grand jury fédéral sur de potentiels crimes commis par l'ancien président. Il a témoigné sur les conversations avec Donald Trump avant l'assaut de ses partisans sur le Capitole le 6 janvier 2021. Les enquêteurs, avec à leur tête le procureur spécial Jack Smith, examinent le rôle de Monsieur Trump dans la violence qui a éclaté ce jour-là dans sa tentative de rester au pouvoir après avoir perdu la présidentielle face à Joe Biden. Parallèlement, le procureur spécial Jack Smith enquête sur l'affaire des archives de la Maison-Blanche que Donald Trump a emportée à la fin de sa présidence. Donald Trump est au centre de plusieurs autres enquêtes. Fin mars, il est devenu le premier président de l'histoire des États-Unis à être inculpé dans l'affaire d'achat du silence d'une actrice de film porno. Une procureure de l'État de Géorgie enquête également depuis 2021 sur les tentatives d'influencer sur les opérations électorales de cet État du Sud.
Le pape François est arrivé aujourd'hui en Hongrie pour une visite de 3 jours. Il a appelé à retrouver l'âme européenne et dénoncé ce qu'il appelle l'infantilisme belliqueux sur fond de montée de nationalisme et de la guerre en Ukraine. Yacouba Ouédraogo.
Le pape François a déploré ce qu'il qualifie de triste déclin du rêve choral de paix. Il affirme que les nationalismes recommencent à gronder, jugeant que la politique internationale régresse vers une sorte d'infantilisme belliqueux. Il ajoute qu'il est essentiel de retrouver l'âme européenne. La Hongrie n'a pas coupé ses liens avec le Kremlin. Son premier ministre, Viktor Orban, se garde de critiquer le président russe et refuse d'envoyer des armes à Kiev. Durant son entretien avec le pape, il a insisté sur la chrétienté vectrice de paix. De son côté, le souverain pontife condamne l'agression de l'Ukraine. Le Saint-Siège tente de maintenir un dialogue avec Moscou, même si cela n'a pas abouti jusqu'ici. Le pape a aussi rappelé à la Hongrie son devoir d'accueil envers les migrants, insistant sur la nécessité d'ouverture aux autres face à la tendance à se replier sur soi-même. La Hongrie a érigé des clôtures à ses frontières et restreint le dépôt des demandes d'asile. Pour la suite de son programme, le pape va rencontrer des personnes pauvres, des jeunes, des représentants du secteur universitaire et culturel et va présider dimanche une messe en plein air.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a mis sa campagne électorale sur pause pour la 3e journée consécutive à 16 jours des élections présidentielles et législatives. Il a été contraint de s'exprimer par visioconférence depuis Ankara pour l'inauguration d'un pont à Adana dans le sud. Monsieur Erdogan a annulé tous ses déplacements depuis mardi soir, dont l'un pour l'inauguration très attendue jeudi de la première centrale nucléaire de Turquie. Il va bien. Les effets de sa gastro-entérite ont diminué. Il veut reprendre son programme au plus vite, a affirmé jeudi après-midi le ministre turc de la Santé. Au moins 22 personnes ont été tuées ce vendredi matin dans une nouvelle vague de frappes russes sur des villes ukrainiennes. La Russie a confirmé avoir bombardé avec des armes de haute précision ce qu'elle considère comme des points de déploiement temporaires des unités de réserve des forces armées ukrainiennes. L'armée ukrainienne a annoncé sur Telegram avoir abattu 21 missiles de croisière ainsi que 2 drones. Pendant ce temps, Kiev affirme que la phase préparatoire de sa contre-offensive d'ampleur s'achève. Et puis le ministre indien de la Défense a dit à son homologue chinois que les déploiements militaires sur la frontière himalayenne contestés minaient les relations et a appelé au désengagement pour préserver la paix et la tranquillité. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Nani Talani.
Le FMI a validé une aide de 191 millions de dollars en faveur de la Centrafrique afin d'éviter une crise humanitaire dans le pays. L'accent sera mis sur les dépenses prioritaires dans les services de base tels que la santé et l'éducation. Le programme prévoit par ailleurs une série de réformes, notamment le renforcement de l'administration fiscale afin de mettre fin aux exemptions en la matière et limiter les projets en termes de crypto-monnaie. Le gouvernement ghanéen veut engager 750 millions de dollars dans un fonds de stabilité financière mis en place pour fournir un soutien en liquidité aux banques participant à un échange de dettes intérieures, a déclaré ce vendredi le ministre d'État aux Finances, Mohamed Amin Adam. Ces fonds comprennent un prêt de 250 millions de dollars de la Banque mondiale.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Yacouba Ouédraogo. Salut Yacouba.
Bonsoir Mohamedou, bonsoir à tous.
Pedro de Luanda et Cape Town Tigers réussissent leur entrée dans la Basketball Africa League.
Oui, comme il fallait s'y attendre, les Angolais de Pedro de Luanda, finalistes l'année dernière, ont battu 89-71 les Ougandais de City Oilers qui découvrent cette balle bien avant dans le premier match de la journée d'hier. Les Guinéens de Seydou Legacy Athletic Club se sont inclinés 75-68 devant les Sud-Africains de Cape Town Tigers. Pour rappel, mercredi, un match inaugural de cette conférence NIL, le club hôte à la Ligue du Caire a eu le dernier mot devant les Mozambicains de Ferroviário da Beira, battu 92-74. Pas de match aujourd'hui, c'est jour de repos. La compétition reprend demain avec des rencontres Ferroviário da Beira, Petro de Luanda et City Oilers à la Ligue du Caire.
Ici, en NBA, Boston qualifié pour les demi-finales de conférence.
Oui, porté par ses fers de lance, Jaylen Brown et Jason Tatum, les Celtics se sont qualifiés pour les demi-finales de la conférence Est en battant Atlanta 128-120 en Géorgie. Auteurs respectivement de 30 et 32 points, Jaylen Brown et Jason Tatum ont inscrit à eux deux quasiment 50% des points de Boston. Après l'élimination des Milwaukee Bucks, meilleure équipe de la saison régulière, surclassée par un surprenant Miami, les Celtics font figure de favoris à l'Est. Mais attention, devant les finalistes de la saison dernière se dressent les Philadelphia Sixers qui, portés par Joel Embiid et James Harden, ont balayé les Brooklyn Nets 4-0. L'autre demi-finale de la conférence Est va opposer à partir de dimanche les New York Knicks au Miami Heat. À l'Ouest, la première demi-finale entre Denver et Phoenix démarrera samedi. La seconde oppose les vainqueurs de la série entre Golden State, le champion en titre, et Sacramento, et de celle entre les Lakers de LeBron James et Memphis. Pour l'instant, les Warriors et les Lakers, qui mènent 3-2, sont en ballottage favorable.
Après le Mondial 2022 de football, celui de basket 2027 attribué au Qatar.
L'annonce est faite par la Fédération internationale de basketball. Tous les matchs du prestigieux tournoi seront joués dans la ville de Doha, indique le communiqué de la FIBA qui assure que tous les sites utilisés pour cet événement phare de la FIBA sont déjà construits. Le prochain mondial de basket doit se disputer aux Philippines du 25 août au 10 septembre prochain, excepté une partie de la phase de groupe accueillie au Japon et en Indonésie. La Coupe du monde féminine 2026 a été attribuée à l'Allemagne.
Football, la composition du comité de normalisation est connue en RDC.
La FIFA a publié la liste des membres du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association. Ce comité est présidé par Dieudonné Nzambine Sele Mutuel. Guy Kabeya Mwana Kanana est le vice-président. Sabin Machini et Honoré Lawango sont membres du comité de normalisation de la FECOFA. La FIFA précise que ses membres vont faire l'objet d'un contrôle d'éligibilité mené par la commission de contrôle de l'instance mondiale du ballon rond avant d'être confirmés à leur poste. Le comité de normalisation est chargé d'expédier les affaires courantes de la FECOFA et veiller à ce que l'élection du nouveau comité exécutif de l'instance nationale du football congolais soit organisée en accord avec le nouveau code électoral de la fédération approuvé le 15 septembre dernier.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouhamadou Oumfa, toujours avec vous. À présent, les dossiers du jour. Au Soudan, de violents combats continuent à Khartoum et au Darfour malgré l'extension de la trêve pour 72 heures. Ces combats qui opposent depuis le 15 avril l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan au paramilitaire FSR du général Mohamed Hamdan Daglo ont fait plus de 500 morts et des milliers de blessés selon le ministère soudanais de la Santé. Pour faire le point, Eric Manirakiza a joint à Khartoum le journaliste Salah Mohamed El Hassan Ousmane.
Au fait, la journée c'était, comme je viens de vous le dire, par écrit, infernale. Depuis le bon matin, les bombardements aériens se multiplient sur les trois villes jumelles de Khartoum, Omdurman et Khartoum Nord, surtout dans les quartiers périphériques, au sud, au nord, à l'est et à l'ouest de ces trois villes.
On signale beaucoup de morts aussi à Darfour.
Ah oui! Plus de 100 morts dans la ville de Djinéla, où il y avait des affrontements entre tribales. C'est pas loin de la guerre qui se déroule à Khartoum, parce que l'une des deux tribus est le tribu de Hemeti, le commandant des forces de soutien rapide.
Salah, Khartoum est privé d'eau et d'électricité. L'Internet n'est pas aussi garanti. L'essence et l'argent liquide commencent aussi à manquer. Comment les habitants parviennent à survivre?
D'abord, une grande partie des habitants ont quitté le Khartoum depuis le début de cette crise vers les villes voisines de Gazira et de Nilplon. Ce qui reste se dépend sur la solidarité mutuelle entre les familles, les voisins, parce que, comme bon, tu viens de le dire, les coupures d'électricité se multiplient en raison de 8 heures à 12 heures par jour. L'eau potable n'est pas, on ne le trouve pas que 2 heures ou 1 heure par jour. On remplit des barils, des bidons pour se provisionner de l'eau. Il n'y a pas d'essence dans les stations-service, pas de transport en commun. Comme je viens de le dire, rien ne s'améliore, mais les gens commencent à s'habituer, à se débrouiller, à trouver d'autres moyens.
C'est une situation aussi qui doit affecter les combattants des forces de soutien rapide et l'armée régulière. Est-ce qu'ils seront capables de poursuivre les combats pour longtemps?
Bien sûr que ça va les affecter, mais il y a deux choses. D'abord, les forces de soutien rapide ont prévu de provisions de manger, d'eau, d'essence depuis avant l'éclatement des affrontements.
C'était le journaliste Salah Mohamed El Hassan Ousmane, joint par Eric Manirakiza.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Le président de la Commission des relations extérieures du Congrès américain, Bob Menendez, demande des sanctions à l'encontre des rebelles du M23 qui se battent en République démocratique du Congo, ainsi qu'à l'endroit de ceux qui la soutiennent. Une position soutenue par l'ancien ministre congolais des Affaires étrangères, actuellement député national, Antoine Ganda. Les deux hommes se sont rencontrés hier ici à Washington DC. Eddie Sango a eu un entretien avec Antoine Ganda.
En tant que député national, en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, en tant qu'ambassadeur itinérant, ayant un peu, donc un soupçon de ce qui se passe au niveau de l'Est, je pense qu'un homme responsable doit pouvoir dire que non, voilà, monsieur le sénateur Menendez, Bob,
vous demandez qu'on puisse sanctionner le Rwanda par rapport à cette agression, parce que c'est eux qui sont en train de pouvoir soutenir. Faites quelque chose. Mais si nous ne prenons pas, nous les Congolais, nous ne prenons pas ce relais, comment voulez-vous que les autres puissent agir à notre place? C'est ce que Emmanuel Macron avait dit.
Sur le terrain, les choses semblent à la fois évoluer, mais il y a un blocage.
Lequel?
Les M23 qui se retirent un jour et après on dit qu'ils sont retournés. Ils demandent de dialoguer. Pensez-vous que des sanctions pourraient plutôt résoudre les problèmes?
Non, c'est-à-dire que je pense que, comme a dit le président de la commission des relations extérieures ici, comme on dit, il ne faut pas avoir, donc, aller au niveau donc, des résultats de la situation, mais il faut aller au niveau donc, des causes. La raison qui fait que l'M23 a cette arrogance, c'est parce qu'il y a un soutien d'un pays qui est bien connu, qui est le Rwanda. C'est à ce niveau-là qu'il faut pouvoir suivre, voir qu'est-ce qui se passe donc réellement. Et c'est comme ça qu'elle a demandé qu'il y ait des sanctions.
Et les sanctions que vous demandez, c'est à l'encontre du Rwanda?
Mais bien sûr, à l'encontre des décideurs rwandais qui ont, et quand c'est un secret de Polichinelle qu'on regarde bien, nous savons tous que le M23, pour pouvoir avoir cette puissance, pour pouvoir avoir cet armement, il y a un pays qui est derrière. Là où ils sont enclavés. Pour qu'ils puissent avoir cela, c'est qu'il y a un pays qui est derrière, et ce pays, c'est le Rwanda. C'est le secret de Polichinelle.
Et il a été dit clairement, je crois, il y a une semaine, le président rwandais qui dit que les problèmes congolais devraient être résolus en profondeur. Et il a même parlé des frontières rwandaises.
Bon, le problème, c'est fort dommage. Je regrette qu'il ait fait au Bénin, qui est l'ancien Dahomey. Il y a un film qui est sorti où on était en train de parler d'esclavagisme. C'est fort dommage parce que là, je dirais que le président rwandais ne connaît pas l'histoire de l'esclavagisme, l'histoire de l'Afrique noire, comment est-ce que nous avons combattu pour pouvoir mettre fin à cela. Donc quand il présente ce problème-là donc de cette manière-là, il y a la convention du 11 août 1910 où l'Allemagne demandait qu'on puisse étendre, comment dirais-je, le territoire donc rwandais. Et c'est comme ça que la RDC a cédé une partie de son territoire jusqu'au niveau du lac Kivu, pour permettre au Rwanda de pouvoir avoir plus ou moins de ces délimitations-là. Alors quand le président Kagame est en train de parler, normalement c'est la RDC qui devait réclamer pour dire, mais tiens, attention, il y a une partie de notre territoire qui a été prise.
C'était Antoine Gonda, député national en RDC.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
La diaspora camerounaise veut développer et exploiter le potentiel de la région de l'extrême nord, l'une des plus pauvres du Cameroun. C'est l'objectif que se sont fixés les organisateurs du Forum international de la diaspora sur les investissements au Cameroun. La rencontre a également permis à ces Camerounais de l'étranger de s'imprégner des mesures incitatives mises en place par le gouvernement pour faciliter les investissements. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juntap.
C'est à l'hôtel de ville de Yaoundé que la diaspora camerounaise est venue présenter son savoir-faire et son intention de contribuer au développement du Cameroun. Parmi ces Camerounais, Angeline est venue de Suisse. Elle a investi dans l'orpaillage. Angeline Atanganangende, directrice générale de Heinz James Cameroun.
Nous sommes en train d'installer une raffinerie d'or. J'ai pu convaincre les Suisses de partager leur cette grande expertise avec nous et de permettre au Cameroun d'avoir une raffinerie au stade international. L'usine est complètement construite. Nous aurons nos premiers lingots d'or fin juin.
Jacques Déby a quant à lui étudié en France et s'est installé définitivement au Cameroun depuis 2010. Il a mis sur pied il y a 6 ans un organisme de certification pour rendre les entreprises locales plus compétitives. Jacques Déby, directeur général de EBI Certification.
Il n'y avait pas de référentiel, par exemple, sur le Made in Cameroun. Il n'y avait pas le référentiel sur Halal pour pouvoir vendre les produits Halal. Il n'y avait rien. J'ai décidé de le faire. Donc quand on vient ici maintenant dans ce centre, c'est pour dire aux autres diasporas, venez, faites. C'est difficile, c'est vrai. Pour pouvoir fonctionner, on a dû former plus de 2000 ingénieurs au Cameroun.
Le Forum international des investissements de la diaspora au Cameroun se veut un rendez-vous annuel. Cette année, il fait la part belle aux régions du Nord, de la Damawa et de l'extrême Nord. Jessica Mani, coordonnatrice générale du Forum international des investissements de la diaspora au Cameroun.
Et nous sommes une trentaine d'associations co-organisatrices venues du monde entier. Et il y a plein de choses à faire dans le Septentrion, à part le classique, tout le monde part là-bas pour faire des puits. On doit sortir des puits. Allons un peu dans des choses un peu plus solides. Vous avez l'agriculture, vous avez l'élevage, vous avez les panneaux solaires, vous avez la santé, vous avez l'éducation, l'énergie renouvelable. Nous sommes en train de vouloir travailler pour que nous relançons la zone de Ouaza.
Le gouvernement encourage les Camerounais de la diaspora à investir dans leur pays à travers des mesures incitatives au niveau de la fiscalité, de l'exonération des droits de douane et de la TVA à l'importation. Jean-Stéphane Menga, directeur de la facilitation de l'assistance et de la coopération à l'agence de promotion des investissements.
Au niveau du portefeuille de l'agence de promotion des investissements, nous enregistrons déjà plus de 300 entreprises agréées. Et parmi ces 300 entreprises agréées, nous enregistrons près d'une trentaine de projets portés par les investisseurs de la diaspora. Nous devons davantage communiquer, davantage rassurer notre diaspora des mesures prises par le gouvernement camerounais pour encourager leurs investissements dans leur pays.
D'après le rapport 2020 sur les investissements, le Cameroun a enregistré un volume d'investissement de l'ordre de 1 000 milliards de francs CFA pour 100 000 emplois créés. Yaoundé, Emmanuel Junta.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Rendons-nous maintenant à Casablanca, au Maroc, où se sont installés plusieurs ressortissants d'Afrique subsaharienne. Certains d'entre eux ont réussi à s'intégrer grâce au travail, malgré les difficultés. Une intégration qui passe aussi par une bonne connaissance du pays et de bonnes relations avec les Marocains. Reportage d'Emmanuel Mouadidibaï à Casablanca.
Cécile Dagro est arrivée au Maroc depuis une douzaine d'années. Pour s'intégrer dans ce pays qui n'est pas le sien, elle, qui est coiffeuse et esthéticienne de formation, a dû travailler comme femme de ménage, ensuite comme masseuse dans un spa, avant de retrouver son métier d'origine et réaliser son projet en ouvrant un salon de beauté.
Nous n'avons pas commencé directement à ouvrir un salon. Nous avons d'abord travaillé dans un autre salon. Ça nous a permis d'acquérir un peu la connaissance, comment on fait ici, parce que il y a la méthode ici et il y a celle de notre pays qui est un peu différente. Donc on a essayé de travailler pour avoir plus de connaissances et ensuite avoir un peu d'argent et ouvrir pour nous-mêmes après.
Son associé Doma Nadej a suivi la même méthode d'intégration. Elle est passée par le travail de ménage dans des familles pendant 5 ans. Pour elle, la bonne conduite dans un pays étranger est la valeur la plus sûre pour ouvrir des portes et faciliter son intégration.
S'il y avait un monsieur qui travaillait ici, c'est des gens qui font de la plomberie. Donc elle a vu le monsieur, elle a dit que vraiment, je cherche un magasin. Il a dit c'est pas facile, mais à cause de ton caractère, ton comportement, depuis que je te vois dans le tunnel, je vais dire à un monsieur qu'il y a un magasin. Je vais lui faire signe et puis il va voir. Donc c'est comme ça, le monsieur a parlé, le Marocain a parlé de nous, monsieur. Et c'est comme ça, un jour, le monsieur a dit, il n'y a pas de problème. Et donc elle est venue, je vais essayer de les rencontrer, je vais causer eux.
Traoré, lui, est directeur dans un cabinet de conseil et de formation. Un cabinet qu'il a ouvert en 2017 après avoir travaillé pendant plusieurs années dans 4 cabinets au Maroc. Et il n'hésite pas à prodiguer des conseils à ceux qui désirent s'intégrer au Maroc à travers le travail.
Le seul conseil que je donnerais à des jeunes d'origine subsaharienne au Maroc, c'est juste d'être réaliste, d'être ambitieux, de ne pas se voiler la face. Quand ils peuvent faire quelque chose, qu'ils gardent la foi et qu'ils continuent à toujours travailler et à persévérer.
Traoré affirme avoir été encouragé par l'environnement marocain, très propice aux affaires depuis les années 2010, quelle que soit l'origine de l'entrepreneur. La création d'entreprises sur le plan juridique n'est donc pas un souci, conclut-il, mais il faut savoir faire face aux défis commercial, social et financier pour une bonne structuration. Emmanuel Modilibay pour VOA Afrique, Casablanca.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. À au micro, Mouamadou Oumfa, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, www.voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube et Twitter. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Au revoir.
Afrique, les infos à Washington.